Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grand Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comme le notait un article du Monde en juin dernier, la France nourrit une folle passion pour le concept de communautarisme. Sur la carte des tendances Google, pouvait-on lire, la France détient le record mondial des requêtes pour ce terme, y compris pour sa version anglaise. Elle affiche un indice 100, alors que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada ou les États-Unis parviennent à peine à dépasser 30. En voilà qui ne manque pas d'étonner dans un pays où le communautarisme n'est pas censé exister. L'article 1er de la Constitution le rappelle sans ambiguïté. La République est indivisible. L'existence de communautés revendiquées y est tout juste tolérée. Alors le communautarisme, pas question. Le rejet est d'autant plus fort aujourd'hui que le débat politique se cristallise, pas sans raison d'ailleurs, sur la place de la communauté musulmane dans la société. Certains reprochent à une partie de ses membres de vouloir s'abstraire des lois de la République, ce qui n'est bien sûr pas acceptable. Mais le communautarisme n'est-il vraiment que cela ? En organisant la solidarité au sein d'un groupe social, en permettant de lutter contre les discriminations, n'est-il pas aussi un outil au service de la collectivité ? Alors y a-t-il un niveau nécessaire de communautarisme ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités, à commencer par vous, Tamara Lui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes déjà venu dans cette émission, mais ce soir, c'est en tant que présidente de l'association chinois de France, français de Chine, que nous vous avons convié. Vous êtes une des initiatrices des manifestations qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment celle du 4 septembre, place de la République à Paris, manifestation contre le racisme à l'égard de la communauté asiatique. Bah, vous aurez peut-être notamment l'occasion de nous dire si vous considérez que ces manifestations étaient des manifestations communautaristes. Pour discuter avec vous, Bérénice Levé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, spécialiste de Hannah Arendt. Vous avez publié chez Grasset en 2014 « La théorie du genre ou le monde rêvé des anges ». Et puis notre troisième invité, Louis Georgetin, bonsoir.
Bonsoir.
Président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Vous êtes par ailleurs le fondateur de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Je citerai un ouvrage qui est en lien direct avec notre discussion de ce soir, Pacte pour en finir avec la discrimination, ouvrage que vous avez dirigé et qui a été publié chez Autrement en 2012. Alors pour commencer, je voudrais vous poser peut-être la question, enfin aborder cette question à travers celui des communautés, puisque pour qu'il y ait communautarisme, il faut qu'il y ait communauté. Et est-ce que vous considérez que vous appartenez à une ou à plusieurs communautés, Tamara Lui?
Avant tout, bien sûr que de ma apparence, de visage asiatique, je appartiens à la communauté chinoise. Encore faut-il distinguer tant la communauté chinoise, il y en a plusieurs. Selon l'origine, selon les années d'arrivée, selon leur motif d'immigration, donc il y a plusieurs communautés. Alors là, je fais partie de ceux d'infime petite partie qui fait partie de ni l'immigration politique, ni l'immigration économique. Je suis venue par mon propre choix, parce que je voulais faire des études en France, donc je choisis d'installer. Je tout à fait peux quitter le pays à un moment ou un autre, retourner dans mon pays. Donc, apparemment, j'appartiens à cette communauté. Je revendique aussi en même temps. Et en même temps, je me sens pas du tout chinois, puisque je parlerai tout à l'heure de ma propre assimilation.
Donc vous dites finalement, mon visage fait que, bon, on voit que je suis asiatique, donc une forme presque d'appartenance obligée à cette communauté. Louis Georgetin, vous êtes noir. Du coup, est-ce que vous vous sentez forcément appartenir à la communauté noire ? Mais cette communauté noire existe-t-elle pour vous ?
Nous appartenons tous, non pas à une, mais à plusieurs communautés. Pour ma part, j'appartiens à la communauté noire, j'appartiens à la communauté française, j'appartiens à la communauté européenne, j'appartiens à la communauté antillaise, à la communauté des enseignants, à pourquoi pas des communautés sportives. Vous voyez, nous sommes tous évidemment membres de plusieurs communautés. Et c'est pour cela que je crois que ce débat sur le communautarisme, à bien des égards, est un faux débat. Le concept est un épouvantail, c'est un signifié flottant. Si vous demandez aux Français ce qu'ils pensent du communautarisme, vous aurez 65 millions de définitions différentes. À vrai dire, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'on en débat tant. Nous adorons en France les faux débats. Et au lieu de parler des vraies questions, c'est-à-dire le chômage, la pauvreté, la violence, nous parlons de choses qui sont un petit peu comme le sexe des anges.
Je vois que Bérénice Levé a déjà un petit désaccord. Alors, peut-être d'abord, pour commencer, pour répondre à la première question, est-ce que vous vous sentez appartenir à plusieurs communautés ?
Justement, ce qui m'a choqué dans ce que vous venez de dire, c'est de parler de la communauté française. La France n'est pas une communauté parmi d'autres. Je sais bien que l'objectif du multiculturalisme serait en effet de réduire l'identité française à une composante d'un grand ensemble constitué de communautés. Mais on ne peut pas parler d'une multitude de communautés, dont la communauté française.
Alors, est-ce que ça vous conviendrait mieux si on disait que la France est une addition ou une superposition de communautés ?
Non plus, parce que je pense que ce que j'appelle le génie français au sens de l'esprit français et surtout de la conception française de la République, c'est d'avoir dépassé les différentes communautés qui composaient la France dans une grande entité qui forme une histoire singulière, mais qui n'est pas une addition, justement, de ces différents particularismes, mais quelque chose qui transcende. Et c'est pourquoi on a pu tenir la bride aux communautés aussi longtemps que nous avons eu une idée suffisamment assurée de nous-mêmes pour leur proposer cette identité française qui était faite d'une histoire, d'une littérature, d'une langue. Mais en revanche, le procès qui a toujours été fait à la République française et qui me semble quand même discutable est d'avoir totalement posé un étai noir sur les appartenances particulières. La seule chose, c'est que la République française séparait le public du privé. Donc ça n'interdit pas de cultiver des fidélités particulières dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, on se rattache à une grande entité qui n'est pas la somme des communautés qui sont présentes en France.
Alors je voudrais faire réagir Louis Georgetin et Tamara Luy sur ce que vous venez de dire. Afficher alors d'une certaine manière son appartenance à une ou plusieurs communautés, est-ce que c'est aller contre les principes de la République ? Je rappelais en introduction, article 1er de la Constitution, la République est indivisible. Est-ce que c'est faire preuve de communautarisme, Louis Georgetin ?
Non, je ne crois pas. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui voudraient définir la République selon leur propre conception, ce qui est leur droit. Mais nous appartenons tous, par exemple, à des communautés familiales. En Europe, nous sommes dans la communauté européenne. Donc c'est des communautés en des formes extrêmement diverses. Ce que je veux dire simplement, c'est que, au fond, le communautarisme est devenu un argument, l'élément d'une rhétorique de la violence. Autrefois, on disait « je n'aime pas les juifs ». Maintenant, il est plus élégant de dire « le communautarisme juif me dérange ». Au lieu de dire « il faut arrêter le lobby homosexuel », dites plutôt « le communautarisme homosexuel menace la République ». Et voyez comment ce même mot, qui a signifié flottant, comme je le disais, est un attrape-tout qui permet de stigmatiser tout le monde, les juifs, les homosexuels, les musulmans, les bretons, les corses. Quantité de groupes sociaux ont été dans le débat public stigmatisés en tant que communautaristes. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux de ce terme. Comme il n'a pas de sens clair, il sert à stigmatiser tout, n'importe quoi et le contraire de tout.
Je fais juste un petit crochet rapide vers Bérénice Levé avant de redonner la parole à Tamara Luy.
Vous nous accusez...
Bien dans le micro.
Je ne parle pas de vous, je parle du débat public.
Oui, mais malgré tout, de donner notre propre définition de la République, non, nous héritons d'une certaine conception de la République. La conception française de la République, ce n'est pas une invention, c'est pas... notre époque est quand même au nominalisme, chacun met sous les mots ce qu'il a envie d'entendre. Non, il y a une histoire derrière ces mots. Et le mot de République nous oblige à quelque chose.
Parce que vous appartenez à une communauté familiale, par exemple.
Mais non,
vous n'avez pas de famille.
Mais si, mais ça ne concerne pas ma vie publique.
Oui, et mais on n'a pas dit. Il y a des différences entre le public et le privé, évidemment.
Le problème, c'est que l'espace public aujourd'hui est assailli par les communautés qui exigent d'être reconnues.
Parce que vous appartenez à la communauté européenne, par exemple. Vous appartenez à la communauté européenne.
Mais ça, c'est une autre dimension.
Ben voilà, c'est ce que nous disons.
Non, mais de toute façon, d'abord, ce n'est pas en termes de communauté que je parlerai. Je suis d'abord
française.
C'est
le débat du jour, que voulez-vous ?
Ben non, ce n'est pas le débat du jour. Le problème, c'est qu'on est en train de déchiqueter la nation en
déchiqueter tout de suite les grands mots.
Tamara Luy.
En tout cas, moi, je pense qu'il est quand même nécessaire aujourd'hui de parler, retenir une définition. Chacun l'entend, lancer le départ sur le communautarisme. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe ? Peut-être faut-il reconnaître l'existence de cette différentes communautés aussi. Je pense que le départ mérite aura lieu dans des sphères publiques, parce que ça devient un mot trop sensible qui est presque devient otage par certains partis politiques. Et chaque fois qu'on prononce un mot, qu'il soit arabe ou noir, peu importe, ça devient communautarisme. Et là, je trouve que d'un seul coup, ça met tout le monde dans une porte-à-faute, d'une façon pour dire que c'est quelque chose. On ne peut pas discuter, il n'y a rien à dire. Or, c'est faux. Je pense que même aujourd'hui, on parle très peu de la communauté chinoise. Et pourtant, ça existe, la communauté chinoise. Les communautés chinoises. C'est pour ça qu'il y a les manifs, il y aura la revendication. Avant tout, c'est quelque chose de communautaire. Donc, je pense que le départ mérite aura lieu.
Sécurité!
Non aux agressions que subissent les habitants d'Aubervilliers, non au manque de mesures de sécurité à Paris. Environ 50 000 Asiatiques et de Français, selon les organisateurs, ont manifesté dans l'après-midi du 4 septembre 2016 au départ de la place de la République en direction de Bastille.
Fraternité ! Agression ! Sécurité !
Voilà l'extrait d'un reportage diffusé sur Radio Mandarin d'Europe le 4 septembre dernier, suite donc à cette manifestation Place de la République à Paris, de la communauté asiatique, enfin d'une partie de cette communauté, ou de ces communautés d'ailleurs, ce serait peut-être un peu plus juste, pour dénoncer la violence dont sont victimes certains membres justement de cette communauté. Et la violence est réclamée davantage de sécurité. Tamara, lui, est-ce que ça, par exemple, ça a fait l'objet d'un débat parmi justement cette communauté asiatique, de se dire attention, peut-être que si on manifeste, on devient vraiment visible, on revendique quelque chose sur la place publique, ce à quoi ne nous a pas trop habitué jusqu'à présent la communauté chinoise. Est-ce qu'on prend pas le risque d'être accusé en retour justement de communautarisme?
Oui, bien sûr, ça c'est double tranchant. C'est-à-dire que souvent on le dit, on le qualifiait les Chinois, en tout cas les Asiatiques en France, sont silencieux, mais visible, c'est-à-dire visible par nombre de personnes, on le voit partout, on le voit dans les magasins, dans les boutiques, y compris les touristes. Mais silencieux, c'est-à-dire qu'on revendique jamais, on proteste jamais, on réclame jamais. Qu'il soit dans le milieu politique, qu'il soit le milieu politique, on le voit très peu de personnes dans le milieu médiatique, encore moins solliciter l'aide allocation familiale dans ce sens-là. Mais or, avec ces manifestations, je pense qu'il marquera dans l'histoire des migrations chinoises, en tout cas asiatiques, en France, depuis un siècle. À la fois, on se sent victime de la création, parce qu'on sent en victime. Sans doute, les victimes, c'est assez égocentré, dans le sens qu'il a l'impression qu'on est la seule victime. Or, effectivement, on n'est pas la seule victime, parce que sur les chiffres annoncés par la préfecture, sur les 600 de tes premières années, il y a un sixième sur nous, c'est asiatique. En fait, les victimes, c'est tout couleur, tout le monde. Les Chinois, ils se sont visiblement visés par leur couleur au faciès. Et là, c'est un ressenti communautarisme très fort. L'impression, justement, c'est en ce moment, on en parle très peu les Chinois, mais les Chinois, d'un seul coup, ils sont la communauté. Le communautarisme est nécessaire pour se protéger.
Alors justement, Bérénice Levé, sur ce cas précisément, c'est-à-dire les revendications de ceux qui ont organisé ces manifestations, elles peuvent paraître légitimes. C'est-à-dire il y a des problèmes de sécurité, de racisme, et donc il y a cette forme d'expression qui est celle de la manifestation. Est-ce que là, pour vous, ça vous pose problème parce que c'est une communauté qui se distingue justement du reste de la société?
Non,
ou bien est-ce que cette manifestation
vous semble légitime? La légitimité de cette manifestation est exactement la situation qui a été celle des Juifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes désigné comme tel et visé comme tel, il est légitime malgré tout de faire savoir cela, de rendre public quand même cette menace qui pèse sur une communauté. Mais le mouvement là n'est pas premier, c'est pas une revendication d'être connu pour soi, c'est en revanche faire porter à la connaissance le fait que la communauté asiatique chinoise est victime d'agression en tant que telle.
Mais est-ce qu'il n'y a pas davantage de tolérance, par exemple, par rapport à cette communauté asiatique qui, pour, globalement, est quand même beaucoup mieux acceptée que par rapport à d'autres communautés qui peuvent peut-être sembler moins légitimes dans l'expression de leur singularité?
Alors, moi, évidemment que je ne suis pour la reconnaissance d'aucune communauté, enfin oui, d'aucune communauté particulière. Mais, en revanche, si vous voulez, ce qui me gêne dans le communautarisme, c'est peut-être la différence entre le communautaire et le communautarisme, c'est véritablement le fait de manifester une volonté de sécession d'avec la communauté nationale. C'est là qu'il y a quelque chose qui doit absolument nous mobiliser, parce qu'il y a des signes d'appartenance qui indiquent clairement la volonté de se démarquer, de faire sécession.
Louis-Georges Tain, est-ce que vous pensez qu'une manifestation de musulmans qui manifesterait, qui marcherait contre, parce que confrontés à des problèmes de racisme et de sécurité, aurait bénéficié du même accueil qu'a bénéficié justement, ou qu'ont bénéficié ces manifestations de la communauté asiatique française?
Alors, je ne le sais pas, honnêtement, je ne veux pas vraiment comparer. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette manifestation est une manifestation communautaire et parfaitement légitime. C'est la même chose pour les associations juives qui luttent contre l'antisémitisme, les associations noires qui luttent contre la négrophobie, les associations homosexuelles qui luttent contre l'homophobie, les associations féministes qui luttent contre le sexisme. Toutes ces personnes font la même chose. Simplement,
mais
en effet,
sont perçues de
aux
la
yeux
même
de la société
manière,
et aux yeux des différentes personnes, en effet, chacun a des échelles de légitimité différentes. Et donc, c'est pour cela que je dis, finalement, le communautarisme a des définitions à géométrie variable. Il y en a qui vont dire, moi, j'aime plus telle communauté que telle autre. Donc là, pour moi, c'est du communautarisme. Je ne suis pas d'accord. Et cette autre communauté me convient. Donc elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne me dérange pas. C'est cela qui est évidemment problématique, car au fond, toutes les personnes dont nous parlons ici n'ont jamais demandé qu'une seule chose, l'égalité. Donc il n'y a pas de vœu de sécession, sauf vraiment quelques mouvements groupusculaires les plus dangereux, les plus extrémistes, comme les terroristes, évidemment. Je ne sais d'ailleurs même pas s'ils sont sécessionnistes, c'est encore autre chose.
Non,
enfin, en très grande majorité, en très grande majorité, parce que le débat, il est quand même très ancien en France, ça fait 20 ans, 30 ans, la majorité des personnes qui ont été désignées comme communautaristes n'ont jamais demandé sécession, elles n'ont demandé qu'une chose, l'égalité, et c'est précisément pour cela qu'elles ont été stigmatisées et désignées comme telles.
On se soucie jamais, c'est quand même l'offense que représente pour la communauté nationale les manifestations communautaires, justement, simplement vestimentaires. Je sais que je vais passer pour un suppôt de Satan, mais le simple port du voile qui se répand d'une façon, mais incomparable. Jamais les femmes n'ont autant porté le voile. Si ce n'est pas une manifestation de sécession, je demande... Et dans
vous êtes
tous
républicaine,
les quartiers,
vous êtes républicaine.
Oui, je suis républicaine.
Donc la seule question,
heurtée,
c'est est-ce que ça correspond, est-ce que ça viole le droit français ou pas?
Mais la, le Conseil d'État, la nationalité française
le droit,
n'est pas qu'une
mais vous
définition
êtes républicaine,
juridique.
Donc obéissez au moins à la loi.
Non,
le Conseil d'État
la
a tranché. Je crois que le débat est déjà résolu.
Je récuse toute définition strictement juridique de la nationalité. La nationalité,
c'est
d'abord
ce
une narrativité. C'est donc,
d'où l'aspect subjectif que je
mais
disais.
Mais par contre, je voudrais juste une petite
au lieu de vous fonder
quand
sur le droit et sur le Conseil d'État, là vous êtes en train de vous fonder sur votre sentiment, votre narration, d'où la subjectivité que je disais.
Flottant. Non, mais c'est parce que ce qui est essentiel, c'est l'incarnation, c'est le fait que être français, c'est pas simplement avoir des droits. C'est moi, si je suis attachée à mon identité française, c'est pas pour les droits que cela me confère, c'est pour sa littérature, pour sa langue, pour l'histoire dont je suis l'héritière. Par ailleurs, vous dites que la réception dont a bénéficié la manifestation des Chinois a été d'un ordre différent que éventuellement d'autres manifestations. Attention, ils étaient seuls, et le Monde l'a titré, nous n'étions pas là. Alors que combien de communautés, que ce soit justement les minorités sexuelles, sont escortés par tout un tas d'associations. Là, nous n'y étions pas. C'est très bien le tweet de Manuel Valls soutenant la communauté. Que n'y était-il pas?
Il vient très 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 tard, le tweet même Emmanuel.
Oui, il est venu tard et de toute façon, il n'était pas présent à la manifestation. Et quant aux politiques, il l'était. Je crois que Valérie Pécresse est passée éventuellement. Bon, donc
si c'est devenu une manifestation communautariste, c'est du fait de l'absence
de notre absence.
Des autres.
Voilà. Camarades. exactement. On est victime, non seulement on est victime de l'agression des délinquants, on est victime de personne nous protège. Personne s'indignait depuis l'affaire, depuis plusieurs affaires. Je ne parle pas que celle-là. Depuis plusieurs affaires, il y a souvent des affaires pas racisme envers asiatique. On se lève le voix pour dire que c'est anti-asiatique. Personne dit, mais non, c'est rien du tout, c'est des moqueries. Et chaque fois, on dit, essayez de remplacer le mot par un arabe, pas une noire, pas une, je sais pas, quiconque. Tout le monde se lève contre ces personnes. Mais, pour les Chinois, ça passe comme une lettre à la poste. C'est là qu'on ressent complètement abandonné par la République française.
C'était une brève dans les journaux si vous n'aviez pas fait cette manifestation. Donc, naturellement, que le traitement n'est pas du tout le même, mais là, c'est notre défection, oui.
Louis-Georges Tain.
Je voudrais donner un exemple concret. Je suis arrivé à Paris, étant martiniquais, au début des années 90. Et à cette époque-là, il y avait évidemment des taux de mort effrayants pour ce qui est de l'épidémie de sida, qui continue encore aujourd'hui et qui tue encore. Et j'ai été frappé parce qu'on nous disait d'un côté, c'est la maladie des Noirs et des homosexuels, et sur les campagnes de prévention sida, je ne voyais que des couples blancs hétérosexuels. Donc je suis allé une fois dans une discussion avec un responsable politique, et je lui ai exposé le paradoxe que voilà, qu'il n'avait jamais finalement réalisé, qu'il n'avait jamais conçu. Alors je lui demande, mais pourquoi y a-t-il un tel décalage? Alors il réfléchit rapidement, évidemment, il me dit, parce que nous ne sommes pas communautaristes, nous sommes universalistes. Alors je lui dis, vous avez raison de l'être, d'ailleurs le virus l'est aussi. Le problème, c'est que nous avons un taux de contamination sida deux fois supérieur à celui de l'Angleterre. Je suppose qu'il y a autant de noirs et d'homosexuels en Angleterre. Or, qu'est-ce qui a été fait au Royaume-Uni? Tout de suite, on a dit, cette menace, elle concerne d'abord certaines communautés. Il faut leur donner les moyens de s'organiser, de se protéger, ce qui va nous protéger ensuite. En France, au contraire, on a dit, la communauté homosexuelle n'existe pas, sous-entendu, elle ne doit pas exister. La communauté noire non plus. Et on n'a pas voulu, du coup, prendre la mesure du problème. Donc là, on n'est pas dans le ciel des idées. Nous sommes dans la vie concrète et dans la mort des gens. Et cette conception complètement rance de l'universalisme a tué des milliers de gens. Donc oui à l'universalisme, mais un universalisme réel et non pas un universalisme abstrait qui n'est en général que le modèle dominant, l'homme blanc, hétérosexuel, catholique, etc.
Mais en même...
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Y a-t-il un niveau nécessaire de communautarisme? C'est la question donc, que nous posons ce soir et dont nous discutons avec Louis-Georges Tain, Tamara Lui et Bérénice Levé. Je voulais justement, Bérénice Levé, vous faire réagir à ce que vient de dire Louis-Georges Tain. Je trouve que son exemple est très intéressant. C'est-à-dire à partir du moment où certaines, alors continuons d'employer ce terme de communauté, sont confrontées à des problèmes spécifiques, est-ce que ça ne suppose pas que la société y répond de manière spécifique, quitte à se servir, alors je ne sais pas si on peut parler de quoi, d'outils du communautarisme, mais en tout cas pour essayer de les régler. Quand il y a des formes de discrimination, est-ce que cette question du communautarisme ne peut pas aussi être utile pour lutter contre ces discriminations?
Si, naturellement, parce que je le disais par rapport à la communauté asiatique, mais en plus, l'exemple ne me semble pas très très bien choisi de la communauté homosexuelle, parce qu'ils ont quand même été les premiers, justement, à être dans la dénégation, au motif que ce serait une maladie qu'on inventerait pour encore les discriminer, précisément.
Donc, la question, c'est ont-ils réagi et est-ce que le gouvernement a donné les moyens à ces communautés? En réalité, vraiment, je crois que c'est dangereux ce que vous dites. Parce que vous êtes en train de dire que les homosexuels n'ont pas pris en charge la lutte contre le sida.
Dans un premier temps,
vous êtes en train quand même de cracher sur des gens qui sont morts, qui se sont battus.
Mais justement,
et les homosexuels ont été les premiers en France.
Les mesures ont tardé à être prises précisément parce que les homosexuels voyaient encore une invention de quelque chose qui...
Les premières associations de lutte contre le sida, vous le savez très bien, ont été faites par les homosexuels. Et je trouve qu'on est à la limite du révisionnisme. Il y a quelque chose d'insultant dans ce que vous dites. Vraiment, je vous invite vraiment à faire attention.
C'est pas du révisionnisme, il y a des éléments.
Donc c'est la faute des homosexuels s'ils mouraient du sida, en fait.
Non, mais écoutez, pas ce genre de conclusion hâtive. Je dis simplement que si nous avons tardé... Non, je dis que si nous avons tardé à prendre des mesures, c'est simplement parce que la communauté homosexuelle y a d'abord vu une invention dirigée contre
elle. Donc les victimes du sida sont coupables.
Mais non. Écoutez, arrêtez de me prêter de tels propos.
Je crois que c'est clair.
Essayons de sortir en tout cas de cet exemple sur lequel vous êtes exprimé l'un et l'autre.
Si vous voulez, ce que je
en tout cas sur la question de réponses spécifiques.
Les réponses spécifiques, oui, mais il ne faut pas que ça devienne envahissant comme ça l'est actuellement. On oublie complètement.
Mais vous pensez à quoi, par exemple, à certains aménagements.
Mais plus que les aménagements, c'est-à-dire que nous ne parlons plus que des communautés, et on a l'impression que moi, si vous voulez, ce que je voudrais que nous en revenions à ce modèle où nous mettions totalement, parce que c'est là que quand je défends le modèle français de la République, c'est que je trouve que c'était un magnifique pari sur la liberté humaine que de penser qu'un individu, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelles que soient les conditions sociales, son origine ethnique, il puisse mettre tout cela entre parenthèses pour participer à une identité autre. Et ce que je voudrais...
La condition que ça fonctionne, si ça fonctionne
mais
pas.
Mais ça ne fonctionne plus parce que nous n'y avons plus.
Ça n'a jamais fonctionné.
Mais si, ça a fonctionné. Moi, je suis née dans les années 70 et je peux vous dire que j'étais dans un établissement où il y avait vraiment des communautés très diverses. Jamais la question ne se posait de savoir d'où venaient mes camarades. Et nous étions destinés à participer à autre chose. Donc, si ça pouvait marcher aussi longtemps que nous étions suffisamment fiers de notre identité pour ne pas se soucier des différentes composantes. C'est tout.
Tamara, lui, tout à l'heure, hors antenne, vous me disiez quelque chose d'intéressant sur les différences générationnelles d'une certaine manière par rapport à l'immigration asiatique et leur appréciation de ce qu'est la nécessité de, justement, alors soit de s'intégrer dans les valeurs de la République, soit au contraire de faire une communauté qui existe un petit peu à part. Et vous faisiez la distinction entre l'immigration politique asiatique et l'immigration économique, qui est plus récente, avec deux approches très différentes, finalement, de ce que doit être une communauté.
Bien sûr, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire d'immigration asiatique en France. L'immigration, quand je parle de l'immigration politique, c'est ceux qui viennent de pays d'Asie Sud-Est. Eux, ils ont presque 100% obtenu la nationalité française. Ils n'apprennent pas au français, c'est autre chose. Au moins, ils pensent qu'ils n'ont plus de point de retour dans son pays natal, qui est Vietnam, Cambodge, Laos, quelque chose comme ça. Et d'autres, c'est que l'immigration économique qui vient de la Chine commence vers l'année 90 jusqu'au 2005-2006, massivement. Eux, ce sont des immigrations économiques. Beaucoup, je le connais, au bout de 20 ans, ils n'ont pas nationalité française. Ils gardaient leur passeport chinois. Ils ont une façon de vivre en France, c'est-à-dire que rien que pour faire des business, élever les enfants dans une école république, eux, ils ne parlent pas français, ça ne les dérange pas du tout. Je suis encore à l'association avec laquelle je travaille, on a reçu des papis et mamies, des seniors, on fait du travail de section, ça fait 30 ans qu'ils arrivent en France, 87, 88, même avant moi, ils ne parlent pas un mot français, et jusque-là. Là, je me pose les questions. Est-ce qu'ils vivent en communauté? Bien sûr, ils vivent en communauté. Ils vivent dans la communauté sans doute très restreinte, mais pendant 30 ans, ils ont construit leur vie, leur famille, enfants, sans parler un mot français. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais en même temps, cette communauté lui protège, sans doute, lui sentait un peu plus quelque chose réconforté. Il n'a pas senti la nécessité de l'apprendre français, mais aujourd'hui, à 70 ans, 80 ans, il pense qu'il est temps d'apprendre le français. Donc, c'est l'idée qui vient beaucoup, beaucoup plus tard. Mais je pense pas qu'ils ont pensé que tiens, je vais quitter ces communautés. Non, je pense qu'ils vont encore rester dans la communauté asiatique ou chinoise, voire même de son village. Et partir même pas de la Chine, ça c'est encore beaucoup plus petit, c'est-à-dire au niveau géographique. Bon. Et ça, c'est l'idée, ça existe. Je pense qu'on ne peut pas renier ça. Et en même temps, notre travail, justement, la modèle, on parle insertion ou l'intégration française, justement, on essaye de décloisonner, désencafler ces personnes comme ça. Or, le modèle, je consiste. C'est un échec. En tout cas, quand je vois les personnes 30 ans après qui ne parlent pas un mot français, je trouve que c'est dommage qu'on parle trop d'immigration, on parle beaucoup, mais or, la politique d'immigration ne marche pas.
Alors, je trouve cet exemple vraiment très intéressant, parce que est-ce qu'on n'a pas là la preuve, finalement, Louis-Georges Autain et Bérénice Levé, que la communauté, voire le communautarisme, peuvent avoir des effets positifs comme négatifs. Positifs quand la communauté finalement sert peut-être de sas d'intégration à des populations, c'est-à-dire, prenons le cas d'un jeune Chinois qui arriverait en France et qui aurait besoin justement du secours de sa communauté pour ensuite aller vers la communauté française. Et puis à l'inverse, une communauté qui peut enfermer, qui empêche ses membres de justement d'en sortir. Louis-Georges Autain.
Mais c'est vrai de toutes les communautés. La communauté familiale, par exemple, exemple, est souvent nécessaire, bien sûr, pour grandir. En même temps, à un certain âge, on a peut-être envie de sortir de sa famille sans nécessairement rompre les ponts. Donc j'ai envie de dire que c'est la tension inhérente à chaque individu par rapport à toutes les communautés auxquelles nous appartenons. Souvent, quand on est dans une communauté, on est content d'y être et parfois on est content de pouvoir en sortir. Donc c'est quelque chose de tout à fait humain. Simplement, la France a une histoire de violence constitutive où on a effectivement fait échec à toutes les communautés qui ont été soit niées, soit carrément violées. Les communautés locales, régionales, bretonnes, alsaciennes, corses, etc., ont été liquidées. Ces langues sont en train de mourir sous nos yeux. Un instituteur qui disait au 19e siècle, parce qu'il se croyait le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, il faut que le breton meure. Et des inspecteurs disaient ça aussi. Après, évidemment, on l'a fait sur toutes sortes de communautés linguistiques. On l'a fait aussi par rapport aux Juifs. Car l'émancipation des Juifs dont on parle pendant la Révolution française, c'est à condition qu'ils renoncent à leur propre identité. L'abbé Grégoire dit, les Juifs sont dégénérés, il faut les régénérer. Donc d'accord, on donne des droits, mais on dit aux gens, attendez, renoncez à votre identité. Ça a été fait de manière totale, bien sûr, pendant la colonisation pour les indigènes. On leur a dit, vous devez vous assimiler et renoncer à vous-même. Si on lit Césaire, la lettre à Maurice Thorez, par exemple, la réponse est claire. Nous voulons l'égalité des droits, mais nous avons nos identités multiples et nous ne renonçons pas à notre identité pour faire plaisir à X, Y ou Z. Et je crois que c'est cela la question. C'est que certaines personnes croient que leur propre vision de la France, c'est leur vision non pas d'ailleurs de l'universalisme et de l'uniformalisme, mais la France, c'est la France, si vous voulez, de toute son histoire et des colonies. C'est la France aussi du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Et beaucoup de gens qui vivent à Paris dans les salons croient que finalement, leur modèle du 6e ou du 7e arrondissement, c'est le modèle de toute la France. Mais sortez de Paris et vous verrez que la France, c'est une multiplicité de terroirs, de traditions. Et quand on me dit dans les années 70, c'était formidable, etc., je vous dis des années 60. Mais moi, je vous dis vraiment, dans les années 60, dans tout l'empire colonial, le modèle qui est imposé est un modèle de violence, et c'est cela qu'il faut aussi entendre.
Alors, dernier sujet.
Alors que vous n'êtes pas idéologique du tout.
Le discours que vous venez de tenir est idéologique.
Essayez de vous écouter un petit peu.
Simplement utiliser le mot de violence. Ça, si vous pouviez rendre un petit peu la dimension de promesse qui était justement faite dans ce partage d'une identité. Est-ce que vous ne croyez pas que le goût et la saveur de participer à cela, vous pourriez la communiquer à tous ces individus qui se pensent d'abord comme des communautés? Vous avez le problème, évidemment, c'est que la France s'étant niée elle-même, évidemment qu'il faut bien combler ce vide identitaire. De là, ce repli sur les identités particulières. Mais quand l'identité française était suffisamment sûre d'elle-même et que nous savions transmettre cette passion-là, je peux vous dire que c'était quand même plus aisé, effectivement, de laisser entre parenthèses les particularismes. Par ailleurs, donc ce mot de violence, c'est vraiment du bourrage de crâne, quoi. Non, c'est pas une violence, c'est une promesse.
Bon, sur ma question, Bérénice Levé, d'un niveau peut-être nécessaire, à un moment donné, de communautarisme, pour permettre justement à des populations d'intégrer cette communauté nationale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble totalement...
J'entends bien, mais je vais être d'accord avec vous à ce niveau-là. C'est qu'il est vrai que il y a une sphère communautaire, comme le foyer, en effet, qui apporte une chaleur, un réconfort, dont il faut savoir se séparer et... vous le disiez, madame, le piège peut se refermer. Donc, je pense que, mais j'insiste toujours sur cette idée, c'est qu'il est plus aisé d'arracher à leur communauté les individus si on les rattache à quelque chose qui... Alors, j'utilise le mot arracher, ça va vous satisfaire. Il est excessif parce que je ne crois pas que l'on est obligé à nier les fidélités particulière au motif que on voulait fabriquer des Français. Vous connaissez sans doute la phrase de Marc Bloch qui dit que c'est un pauvre cœur que celui auquel il est interdit de renfermer plus d'une tendresse. Marc Bloch se disait français, mais il n'oubliait pas qu'il était juif. Quand l'émancipation a été reconnue aux Juifs, effectivement, nous leur avons demandé de... Nous leur avons reconnu la citoyenneté en tant qu'individu et non en tant que communauté, parce que ce morcellement était contraire à la France que nous voulions construire, ou à la République que nous voulions construire.
Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous trois, qu'on n'a pas encore directement en tout cas évoqué, qui est la question de savoir qui est le mieux placé finalement pour lutter contre les discriminations, dans la mesure où on peut aussi considérer que le communautarisme est le résultat de discrimination. Il y a eu, il y a quelques jours de cela, près de Reims, un camp d'été décolonial qui était réservé aux non-blancs. C'était écrit de manière extrêmement claire. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que, puisqu'on pose la question d'un niveau nécessaire de communautarisme, qu'à un moment donné, il est utile et efficace que les personnes discriminées se rassemblent entre elles et seulement entre elles pour justement mieux lutter contre ces discriminations. Bien, est-ce qu'il faut au contraire que ça puisse être pris en charge par l'ensemble de la collectivité, Tamara Lui?
Je pense que tous les individus se regroupent ensemble, c'est quelque chose de naturel, par nécessité ou par besoin. Et en revanche, on peut pas le forcer de séparer de son couple. C'est vraiment c'est quelque chose émancipé de son propre cœur, de propre âme. Et se regrouper ensemble, je pense que par exemple le moment de crise, en ce moment pour la communauté ascétique, ils se sentaient absolument de besoin de solidarité d'une façon et solidifier même, c'est-à-dire que faut qu'ils soient restés plus entre eux. À ce point-là, qui se protège tout seul, qui se défend tout seul, vu qu'il se sentait complètement abandonné par République. Donc, ces sentiments d'être appartenance de la communauté chinoise, ça donnait encore plus de fierté. Malheureusement, c'est ça, dans ce contexte assez tragique, ça sentait cette fierté. Mais en même temps, personnellement, quand je discutais avec mes compatriotes, rarement je leur disais que bon, faut que vous intégrez, faut que vous fassiez ça. Parce que je pense l'intégration, wow, l'assimilation, ça vient de propres motifs, initiatives. Même moi-même, je suis intégrée, je suis assimilée. Or, il y a beaucoup de Chinois n'est pas ni intégré ni assimilé, c'est pas pour autant qu'il appartient pas à la République française.
Oui, Georges Tain.
En fait, la tradition de non-mixité est assez ancienne. Le cran n'y souscrit pas. Mais dans les mouvements féministes, par exemple, il y a eu souvent des moments de rassemblement. Par exemple, si on veut parler du viol entre femmes qui ont été victimes de viol, on peut comprendre que cela se fasse sans hommes. Ou sur les groupes en situation de handicap, des jeunes sourds qui ont le sentiment que quand ils parlent d'une manière qui suscite les moqueries. Eh bien voilà. Donc, cela peut arriver dans des groupes discriminés, donc ça n'est pas extraordinaire. Moi, ce qui me choque beaucoup plus en France, en matière de communautarisme, c'est pas ce camp d'été dont on a beaucoup parlé, c'est plutôt le communautarisme des élites. Il semblerait que beaucoup de lieux du pouvoir soient liés à la promotion Voltaire, un communautarisme blanc, dominant, des énarques, et ça n'en parle jamais. Vous voyez, donc en fait, il y a les communautés qu'on voit, qu'on stigmatise, qu'on montre du droit, et celles qu'on ignore. Est-ce que véritablement on peut construire ce pays sur une base d'égalité, quand il y a effectivement une sorte de monopole du pouvoir? Voilà une vraie question.
Quand vous parlez de communautarisme concernant donc ces élites qui seraient issues en gros des grandes écoles, ça veut dire que vous considérez que elles ont des droits spécifiques auxquels n'ont pas accès l'ensemble de la communauté nationale.
Je ne sais pas s'il y a des droits, mais il y a des passe-droits. Il y a des accès à des postes et des choses comme cela. Donc, en gros, il y a les communautés d'en bas qu'on stigmatise très facilement, et les communautés d'en haut qu'on ne stigmatise pas parce qu'elles sont dominantes, tout simplement. Donc, au fond, ce discours, en réalité, et d'ailleurs Bourdieu l'avait très bien dit dans ses écrits, c'est le discours de la domination. Et donc, ceux qui sont en haut, qui sont des communautés protégées, qui sont dans l'entre-soi, on ne les dénonce pas. Et ceux qui sont en bas, on les dénonce. C'est aussi simple que cela. La propension à dénoncer justement ces communautés d'en bas s'élève et augmente à mesure qu'on s'élève dans l'échelle sociale.
Et c'est peut-être là-dessus que vous pourriez vous rejoindre avec Bérénice Levé, puisque tout à l'heure vous nous disiez finalement, en gros, la République, enfin nous ne réussissons plus à donner envie d'appartenir à cette communauté, mais est-ce que ça n'est pas d'abord le signe d'une faillite des élites?
Ah si, bien évidemment. Plus qu'une faillite, c'est cette destruction de l'identité nationale est le fait des élites, puisque de toute façon, ils s'orientent déjà selon des catégories post-nationales. On l'a vu au moment du Burkini, on ne parle que de droits de l'homme, de grandes généralités. On a l'impression que les mœurs françaises n'existent plus. Donc, naturellement, mais c'est vraiment pire qu'une faillite. C'est une entreprise de déconstruction. Ils vivent de toute façon dans le poste national. Bon, par ailleurs, ce dont vous parlez me semble plus relever des réseaux et que du communautarisme, enfin, peu importe. Mais la question...
Et pour conclure, dernier sauvé, oui, puisqu'on est à la fin de l'émission.
C'était par rapport à la question précise que vous posiez. Oui, de savoir si justement ces groupes qui se réunissent à l'exclusion de tout autre élément, si l'enjeu est l'injustice, autant rallier à sa cause le plus d'individus possible et de ne pas s'enfermer entre ces récits victimaires où on se rassure sur le camp des bons et le camp des méchants. Donc ça me semble un manichéisme d'une indigence redoutable et contraire, en plus contre-productive.
Voilà, encore faut-il qu'il y ait suffisamment justement d'envie et de monde dans ce genre de mouvement pour qu'on n'ait pas l'impression justement qu'on est dans du pur communautarisme. Je repense justement à ce que nous disait Tamara Lui par rapport aux dernières manifestations de la communauté asiatique. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir discuté. Discussion, je savais qu'elle serait passionnée, elle l'a été. Merci à vous Bérénice Levé, Tamara Lui et Louis-Georges Tin. Vous pouvez nous réécouter, vous réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez. Téléchargez l'émission pendant un an et la commenter sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Baer, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Edouard Rubinstein. Demain, l'individualisation des risques santé menace-t-elle le pacte social ? Tout de suite, c'est Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Je vous ai retrouvés tous les deux, vous m'avez manqué tout à l'heure à 18h.